C'était promis lundi, et eh bien c'est chose faite. Mercredi, on est vraiment au cœur du sanctuaire à la porte Saint-Joseph. Et on est vraiment là, au milieu de ce grand pèlerinage national, dans la fête du livre chrétien. On va vivre un moment très sympa ensemble et on a plein d'invités. C'est cette deuxième édition de la fête du livre chrétien. Nous sommes avec nos premiers invités. Et alors, c'est super parce qu'on ouvre avec des Lourdais. Je suis avec Daniel Pesé. Bonjour Daniel.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Vous êtes président de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Vous êtes à côté de vous, nous avons Jean-Christophe Borde. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Mais écoutez, vous êtes chez vous car vous êtes vous aussi de Lourdes. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur, vous êtes passionné d'histoire et du cinéma pour ceux qui vous connaissent. Et alors, vous avez collaboré ensemble pour célébrer un grand anniversaire. C'est le 140e anniversaire de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Daniel Pesé, vous êtes président d'une hospitalité qui a 140 ans. Ça, c'est quand même un héritage.
Ah, tout à fait. Et puis, ça crée des devoirs. Et effectivement, quand on est à la tête d'une hospitalité qui a été créée en 1885, on se dit qu'il faut non seulement fêter l'événement, l'anniversaire, mais rappeler un peu tout ce qui nous a amené aujourd'hui, ce qu'ont fait nos prédécesseurs. Mais aussi par des témoignages, rappeler ce que font aujourd'hui les hospitaliers de Lourdes avec des témoignages. Et puis le côté international aussi de notre hospitalité. Enfin, parler des défis de demain.
Alors pour ça, vous éditez une magnifique publication, 120 pages, j'aurais presque pu faire 140 pages pour les 140 ans, mais on n'est pas loin, et donc Jean-Christophe, vous avez été rédacteur de cette publication, on va en parler, mais simplement pour situer, nous sommes là à quelques jours de la grande fête de l'Assomption, avec le pèlerinage national de l'Assomption. 7000 pèlerins sont là, ils sont aussi rejoints par bien d'autres, et puis on attend 20 000 personnes pour cette fête du 15 août. Il faut bien comprendre que ces hospitaliers peuvent venir servir des malades parce qu'il y a l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, j'ai envie de dire l'hospitalité mère, qui est là pour les accueillir. C'est une grande chaîne de fraternité. Est-ce que vous pouvez bien nous réexpliquer le rôle des hospitaliers Notre-Dame de Lourdes?
La mission des hospitaliers Notre-Dame de Lourdes, c'est l'accueil. L'accueil de tous les pèlerins et en particulier des pèlerins malades. Et ça, c'est une spécificité de notre sanctuaire aussi, de mettre les malades au premier rang. Et donc pour justement les accueillir, pour pouvoir animer les processions, pour pouvoir animer les piscines, il y a besoin d'avoir des bénévoles chrétiens qui se sont organisés en association. Et ça, depuis le début, depuis il y a 140 ans. Voilà. Et en fait, dans le titre, pèlerins et serviteurs, voilà, c'est ce que nous sommes, à la fois au service, mais en même temps pèlerins. C'est-à-dire que nous répondons à l'appel de Marie.
C'est un engagement, devenir hospitalier. C'est d'abord une phase de découverte et puis c'est vraiment un engagement. On fait la promesse de venir chaque année en service à Lourdes.
Oui, en fait, au terme de 4 années de préparation, de formation, on a la possibilité de faire son engagement. C'est-à-dire, je m'engage à venir régulièrement, pas forcément tous les ans, ça dépend de ma santé, ça dépend de mon travail, ça dépend aussi des finances, parce que venir à Lourdes, ça a aussi un coût. Mais je m'engage à venir. Et puis, même si je ne suis pas à Lourdes, je continue quand même à être hospitalier, chez moi, autour de moi.
Oui, voilà. C'est ça.
C'est un envoi en mission aussi de devenir hospitalier.
Accueillir les pèlerins malades, âgés, fragiles, vous l'avez dit, il y a besoin de se former. Pour cela, on ne s'invente pas hospitalier. Et ça, depuis 140 ans, la formation a toujours accompagné le parcours des hospitaliers.
Oui, il y a trois volets dans la formation. Il y a effectivement la partie technique, parce que ça ne s'invente pas, d'aider un malade dans le bain, de le préparer, ça ne s'invente pas. Il y a la partie aussi comportementale, c'est-à-dire le geste qu'il faut, les paroles d'accueil, le sourire. Nous, on insiste beaucoup sur le sourire, bon, voilà, parce que c'est important. Ça commence comme ça, l'accueil, même à la gare, ça commence par un sourire, avant le premier mot. Troisième volet, la partie spirituelle. Voilà, je suis à Lourdes, je dois donc non seulement connaître le message de Lourdes, mais l'approfondir, voilà, et me le rappeler. Voilà, je suis pèlerin. Je vois, donc, ces trois volets, c'est une formation et c'est depuis 140 ans. Mais voilà.
Et vous l'avez dit, depuis 140 ans, eh bien, les hospitaliers Notre-Dame de Lourdes permettent aux personnes de pouvoir vivre le bain, être immergées dans l'eau de Lourdes. Et puis c'est aussi les accueillir. Vous avez parlé du quai de la gare, on pourrait parler du tarmac de l'aéroport. C'est le premier accueil quand on arrive en terre de Bigorre.
Oui, effectivement. On nous le disait quand j'étais stagiaire de première année, c'est vous êtes les premiers. Vous êtes les premiers à accueillir les pèlerins. Donc tout doit être parfait. Et donc on doit avoir ces mots d'accueil. Cette chaleur aussi. Enfin, voilà, faut avoir de l'empathie. On est heureux d'accueillir nos frères et sœurs en humanité.
Ben, vous le transmettez bien. Jean-Christophe Borde, alors vous êtes lourdais. Daniel Peset vous a appelé pour être le rédacteur de cette publication qui est présentée pour cette deuxième édition de la fête du livre chrétien ici au sanctuaire de Lourdes. Hospitalité Notre-Dame de Lourdes et 140 ans pèlerins et serviteurs. Alors, vous êtes lourdais. Est-ce que vous avez néanmoins découvert quelque chose ? On pourrait dire qu'on sait déjà tout des hospitaliers de Lourdes.
Alors j'ai tout découvert. Je pensais bien connaître l'hospitalité, effectivement, en tant que lourdais, en tant que journaliste, puisque j'ai quand même collaboré à Lourdes Magazine pendant quelques années. Je croyais tout savoir, les piscines, la gare, etc. Et en fait, j'ai découvert, grâce à Daniel, tout un monde de dévouement, un monde de générosité, une maison commune où chacun a son importance, chacun apporte sa pierre. Et j'étais stupéfait de voir comment on pouvait, de manière aussi désintéressée, se consacrer aux autres. Ça a vraiment été la plus grande découverte. Après, c'est vrai que j'ai pu suivre les uns et les autres sur les lieux du service, c'est-à-dire aux piscines, à l'aéroport, à la gare, et partager le quotidien comme ça de ces missions-là, c'est d'une richesse incroyable. Je ne pensais pas qu'on pouvait vivre comme ça, on pouvait se consacrer aux autres d'une aussi belle manière et d'une manière aussi désintéressée, finalement.
Ouais, c'est ça, c'est toujours découvrir les œuvres de l'intérieur et ne pas rester au superflu de l'information. Vous avez forcément découvert des tas de personnes, vous avez fait beaucoup d'entretiens, d'interviews.
Ce qui m'a frappé, c'est que, et ça c'est le point commun entre chaque personne que j'ai pu rencontrer, c'est que leur maison c'est Lourdes. Ils sont ici, chez eux, et quand ils en repartent, d'abord ils sont très malheureux d'en repartir, mais une fois qu'ils sont chez eux, ils ne parlent que de Lourdes. Lourdes, la mission de l'hospitalité c'est Lourdes, mais c'est aussi quand une fois rentrés chez eux, ils ont tout un rôle à tenir, et ce sont les premiers ambassadeurs à la fois de Lourdes et de l'esprit de Lourdes, ce que représente le service. Parce que Lourdes sans l'hospitalité, ça ne serait pas Lourdes dans tous les cas. Et ils incarnent à leur manière les Bernadettes d'aujourd'hui. Voilà, cet esprit de Bernadette, ce dévouement de Bernadette, on le retrouve dans chacun, et je dis bien chacun, des hospitaliers. J'ai pas rencontré un hospitalier qui soit là par intérêt, qui soit là par autre chose que le dévouement. Et la récompense, c'est le sourire, c'est les paroles qu'ils échangent. Alors il y a la barrière de la langue. Alors il y a beaucoup d'hospitaliers, il y a beaucoup d'Italiens, beaucoup de Français, beaucoup d'Américains. Moi, j'ai découvert, je ne savais pas qu'aux États-Unis, l'hospitalité et Lourdes pouvaient être aussi significatives que cela. Et, voilà, et même la barrière de la langue, elle n'existe plus. Moi, j'ai rencontré des hospitaliers qui m'ont dit, moi, j'ai parlé français, je ne parlais pas français, j'ai réussi à parler français alors que je pensais que je n'en étais pas capable. Voilà, c'est ce petit miracle de l'hospitalité qui accompagne Lourdes au quotidien. Et j'en suis encore une fois, il faut lire la revue. Je vais faire la publicité pour la revue,
ah,
il
oui.
faut la lire. Parce qu'on découvre, vous découvrirez tout un tas de choses. Et vraiment, toucher du doigt l'esprit de l'hospitalité, ça c'est quelque chose qui n'a pas de prix.
Voilà. C'est beau d'entendre Jean-Christophe Borde, un grand spécialiste, un grand connaisseur de Lourdes, dire que les hospitaliers sont les Bernadettes d'aujourd'hui. Vous avez fait un bon choix de rédacteur, j'ai l'impression, Daniel Peset, pour cette revue.
Ah oui, mais là je dois vous avouer que c'est l'Esprit Saint, je veux dire. C'est l'Esprit Saint qui m'envoie. Effectivement, je ne connaissais pas Jean-Christophe, mais il y a Pascal Castillo qui nous a tellement aidés, qui m'a convaincu que l'on pouvait arriver à faire dans les délais un ouvrage de cette qualité. Et puis il m'a présenté Jean-Christophe. Et tous les trois, ça a bien marché. Mais donc c'est vrai, je remercie l'Esprit Saint, mais à Lourdes.
Vous avez fait aussi un gros travail où vous êtes plongé dans les archives de l'hospitalité. On sait qu'il y a des archives qui sont conservées au sein de l'hospitalité, au sein du sanctuaire. Et donc là aussi, on a une traversée de l'histoire. C'est important, cet enracinement dans l'histoire de Lourdes pour les hospitaliers aujourd'hui.
Moi, j'ai, enfin, en relisant l'histoire de Lourdes, en relisant les archives, j'éprouve une réelle tendresse pour tous ceux qui nous ont précédés, des héros qui, au tout début de la vie du sanctuaire, vont créer cette association et puis la développer, construire aussi, développer les différents services, comment mieux accueillir les pèlerins. Moi, une vraie tendresse pour eux, parce que puis on s'aperçoit aussi qu'il y a nous avons des soucis communs, des similitudes, même encore aujourd'hui, voilà, parce qu'on a toujours parfois quelques soucis et des difficultés. Et puis, je dis, ce qui est important, c'est pas uniquement de se tourner vers le passé, mais c'est de se dire, il faut convaincre, il faut donner envie de venir. Voilà. Lourdes, le sanctuaire, l'hospitalité, ce n'est pas un lieu poussiéreux qui ressasse le passé, c'est du quotidien. C'est, voilà, aujourd'hui, on accueille des pèlerins malades, toujours. Et, voilà,
quel est votre défi aujourd'hui? C'est de continuer à convaincre, à accueillir. Est-ce qu'il y a moins ou plus d'hospitaliers par avant? Quels sont les défis qui se présentent à vous en 2025?
Le défi, c'est le défi du sanctuaire, d'ailleurs. Venez et voyez, c'est convaincre. Venez voyez, oui, des jeunes, parce qu'on dit, oui, c'est rajeunir, etc. Tout le monde est le bienvenu, parce qu'on a besoin de jeunes, les jeunes, c'est notre présent et notre avenir. On a aussi besoin d'avoir des cheveux blancs qui sont là à des périodes hors vacances scolaires, qui seront présents pendant l'hiver, parce que les piscines ne ferment jamais. Et donc, il y a besoin d'hospitaliers. Là, on est en fraternité avec les hospitaliers de la Bigorre, les Landais, les Basques-Aubernais, pour continuer à ce que le service à Lourdes... Voilà. Ça, notre souci, c'est que ce soit la permanence du service, mais pas du service pour le service. Du service dans le sourire, du service dans la tendresse. Voilà, c'est ça. Le défi, voilà, accueillir avec amour.
C'est pour ça qu'il y a cette publication Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, pèlerins et serviteurs pour les 140 ans. Alors, on a nos autres invités de cette fête du livre qui sont avec nous, mais juste avant de partir, Daniel Pesé, encore une fois, vous avez un projet qui est de renouveler les voiturettes bleues de Lourdes. Alors ça fait partie de l'image d'Épinal. On connaît évidemment l'image de la grotte, l'image des grandes processions, mais ces voiturettes bleues dans lesquelles les personnes malades, âgées, sont transportées par des hospitaliers, elles vieillissent un petit peu et il y a besoin de les renouveler.
En fait, ces voitures, elles existent depuis le début du sanctuaire. Elles ont évolué. On a retrouvé celles d'aujourd'hui. Elles ont été mises en place dans les années 50-60, si vous voulez. Donc, c'est des voitures qui ont plus de 60 ans, qui sont le symbole. S'il y a bien aussi un symbole, oui.
Ce sont encore de belles dames. Hein.
Elles sont encore de belles dames, mais 60 ans de service aussi, on commence à avoir un parc vieillissant. Donc, il est intéressant, comme l'ont fait nos prédécesseurs, de s'intéresser en disant maintenant il faut peut-être penser à la voiture d'aujourd'hui avec des matériaux d'aujourd'hui et puis qu'est-ce qu'on reprochait à celle d'aujourd'hui, elle est très bien. On a 700 à 800 actuellement qui permettent justement à des pèlerins fatigués, des pèlerins handicapés, des pèlerins malades de pouvoir assister à toutes les processions, les célébrations, etc. Donc on a, je veux dire, avec l'aide du préfet qui était en visite dans le sanctuaire.
Le préfet
des Hautes-Pyrénées, qui ont présenté nos voitures bleues, parce qu'on parlait de mobilité dans cette visite. Donc, je lui ai présenté la voiture bleue et en disant, elle commence à vieillir. Et lui, il m'a dit, mais tiens, justement, je connais une entreprise à Lannemezan qui fabrique des cycles et qui, notamment, travaille aussi pour des personnes handicapées, en situation de handicap. Donc, ça serait peut-être bien que vous puissiez vous rapprocher. Alors, avec l'aide de Guillaume de Vulpian, le directeur du sanctuaire, nous sommes allés à côté de Lannemezan et puis on a commencé à écrire un cahier des charges. Et là, maintenant, on est déjà dans le design des futures voitures. Je pense que des prototypes vont sortir pour le Rosaire ou au moins certains pour les journées de février. Et puis, on commence les bulletins de précommande pour peu à peu inciter des associations, des particuliers à commander ces voitures. Certes, ils les commanderont et puis c'est le sanctuaire qui les recevra. Et peu à peu, ces nouvelles voitures seront plus légères, plus sûres, parce que les anciennes, on a encore parfois quelques pèlerins qui se blessent parce qu'on peut accéder au rayon, voilà tout. Donc ça sera la voiture de l'an 2026.
Voilà. Alors, voilà, donc n'attendons pas la sortie du salon de l'automobile. Ici, les prototypes de ces nouvelles voitures de Lourdes arriveront bientôt. Et donc, voilà, avec la possibilité, parce que c'est ça, hein, c'est la générosité. Lourdes, il faut que chacun puisse aussi participer et pouvoir prendre en charge une voiturette bleue et pouvoir aussi, il est prévu de laisser la place, le nom hein, du donateur sur l'une de ces voitures. Alors voilà, chers auditeurs, si vous souhaitez soutenir l'hospitalité, vous procurez cette publication Hospitalité Notre-Dame de Lourdes qui est disponible grâce aux moyens de l'hospitalité pour découvrir les 140 ans, l'histoire, mais aussi les défis de demain. Et puis si vous le pouvez, ben voilà, parrainer, j'ai envie de dire, une des voitures Red Bleu. Merci Daniel Peset, merci beaucoup Jean-Christophe Borde. Vous repartez, vous, à la fête du livre et puis nous, on continue.
Merci
d'être avec nous. On continue avec Chrysoline Brabant. Bonjour Chrysoline. Voilà, vous savez, c'est comme ça, hein, c'est les effets du direct, on est vraiment dans... Merci, et on salue les invités qui partent et puis les autres qui nous rejoignent. Chrysoline, vous êtes coach,
oui.
Coach certifié, vous êtes également psychologue clinicienne, psychothérapeute, oui. Et vous publiez aux éditions de l'Emmanuel « La force des célibataires, sans question pour ce... connaître et rayonner. Ça, c'est un livre de coach pour les célibataires.
Tout à fait, David. Je suis ravie d'être là pour que nous puissions en parler ensemble. Je suis moi-même célibataire et mon activité, c'est d'accompagner des dirigeants, des futurs dirigeants, des entrepreneurs, soit individuellement, soit en équipe. Et puis petit à petit, certains sont venus pour être accompagnés personnellement, se rendant compte qu'il y avait vraiment des vases communicants entre la vie personnelle, professionnelle, associative, sociétale, politique. Et donc, j'ai fait une proposition qu'on appelle d'accompagnement holistique. Et certains m'ont dit, puisque tu m'as aidé à trouver une vie professionnelle qui me va comme un gant et qui me rend très heureux ou très heureuse, est-ce que tu pourrais pas m'aider à réfléchir à ma vie personnelle pour y trouver un alignement, un ancrage et être pleinement épanoui? Et petit à petit, certains célibataires m'ont dit, mais et le célibat, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'y reste? Est-ce que j'espère un autre état de vie? Et comment ensemble on peut réfléchir à ce qu'il y a de plus épanouissant pour moi aujourd'hui?
J'ai envie de dire, vous êtes une coach totalement complète. Donc vous vous chargez de la vie professionnelle, de l'émergence un peu des talents, si je comprends bien. Et puis allié aussi à la vie personnelle. Vous pensez qu'il est nécessaire de consoler les célibataires? Est-ce que c'est... Elle est peut-être bête ma question, mais enfin je me dis, est-ce que c'est une souffrance finalement d'être célibataire?
Alors c'est vrai que, pour rebondir sur votre première proposition, c'est vrai que je suis coach quelque part qui embarque différents domaines et souvent ça surprend, on me dit quelle est ta spécialisation, et ma spécialisation c'est d'avoir développé mon activité de rencontre en rencontre. La vie m'appelle à des endroits et à chaque fois pour moi c'est nouveau, c'est un lieu de création et de fécondité, et c'est vrai qu'en tant que célibataire de pouvoir transmettre ce que j'ai reçu d'autres confrères, d'accompagnateurs, etc., c'est une vraie joie. Donc déjà j'y trouve ma fécondité. Ensuite sur votre question de la souffrance, alors c'est vrai que la souffrance c'est un mystère, et un mystère c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini d'épuiser. Et donc on peut tourner autour de ce mystère de la souffrance et se poser des questions, et c'est complètement légitime d'être triste si on n'est pas un célibataire choisi,
ouais.
et d'être déstabilisé, de se dire pourquoi moi, à quoi bon, etc. Et c'est vrai que les uns et les autres, et vous l'avez vu certainement dans mon livre, je commence par la part lumineuse, comment on peut regarder nos vies ou regarder ceux qui vivent avec une souffrance aussi avec la partie qui peut être féconde, qui peut se déployer. Et en tant que célibataire ou en tant que malade, quelle est la part sur laquelle je peux agir moi-même au-delà du mystère de la souffrance? Quelle est la part sur laquelle je peux me dire j'ai beaucoup aimé ce que Monsieur Peset a dit ici, c'est le sourire. Sourire, c'est difficile. Et à des moments, on ne peut plus sourire. C'est vrai, je le reconnais, quand on a vécu des choses lourdes, des traumatismes, on n'est pas à l'endroit où on désire être. Mais malgré tout, parfois, si on se dit, tiens, et si je souriais aujourd'hui à quelques personnes, vous voyez? Et c'est tout petit. Et hier, on parlait dans l'atelier avec les célibataires, ce qu'on appelle le précieux premier petit pas qui va vers ma joie. Voilà, donc c'est un peu le sens du livre.
Quand vous dites vous parliez avec ce groupe de célibataires, il faut rappeler que nous sommes dans le cadre du pèlerinage national, avec énormément de propositions, dont cette fête du livre. Et donc vous animez des temps de conférences. Évidemment, nous sommes dans un événement d'église. Est-ce qu'on peut dire que les en église, les célibataires sont nombreux. Alors évidemment, il y a la vie religieuse, hein, tout à fait. Mais est-ce que les célibataires sont nombreux et parce que vous apportez malgré tout un regard chrétien quand même, hein, sur cette
tout
vie
de
célibat. Quel est votre constat?
Alors, est-ce qu'ils sont nombreux? Bah, moi, je ne suis pas statisticienne et je ne vais pas pouvoir faire des tendances, je ne suis pas sociologue. Je peux vous parler de là où je suis. En tout cas, ils sont nombreux à désirer s'épanouir pleinement dans l'état de vie dans lequel ils sont et de pouvoir se donner. Et c'est vrai que ça rejoint vraiment ce qu'on voit chez chacun, qu'on soit chrétien ou pas chrétien. On a tous envie d'aimer et d'être aimé de manière juste. Et donc, vous posiez la question de la liberté. Bah, moi, je pense que l'enjeu de la liberté est dans cet espace-là d'aimer et d'être aimé à ma juste place.
Oui, c'est ça, cette liberté de célibataire. Parce que parfois, on a envie de dire en église, quand on voit quelqu'un de sympa, dynamique, célibataire, on se dit, alors ça, c'est super, on va lui demander plein de services. L'église espère ça très bien. Est-ce qu'il faut aussi résister pour aussi laisser de la place à sa vie personnelle? Puisque, en tant que coach, qu'est-ce que vous répondez à ça?
Alors moi, j'aime bien travailler avec les uns et les autres sur la question, c'est qu'est-ce que tu désires? De quoi tu as besoin? Et c'est vrai que ce soit en église ou ailleurs, souvent on a tendance à projeter ce qu'on imagine de meilleur pour l'autre et à l'inciter à lui faire des propositions malgré lui. Et donc la liberté, elle est de deux côtés. En accompagnement systémique, on dit la relation, c'est une personne, une deuxième personne et une troisième entité, la relation. Et donc comment je peux assumer qui je suis, être aligné, ancré? Comment je peux découvrir l'autre en face et comprendre ce dont il a besoin, envie, et comment je peux nourrir cette relation? Et c'est de tous les états de vie qu'on peut se poser cette question. Et vous seriez assez surpris d'écouter une autre émission radio où la journaliste était mariée et me dit, mais votre bouquin m'a bouleversée parce qu'il m'a fait faire un travail sur la femme que je suis. Je sais l'épouse que je sais la mère que je suis, mais la femme, je n'avais pas vraiment réfléchi. Et ça lui a fait faire un chemin. Et j'ai un ami prêtre qui a relu le livre avant qu'il soit édité parce que je voulais vraiment m'assurer qu'il y ait une anthropologie chrétienne derrière. Et il m'a dit, ce livre m'a fait faire un chemin d'homme, en fait. D'homme, voilà. Et donc c'est une question qu'on peut tous se poser. Comment ensemble co-construire nos relations, avoir des justes relations, que ce soit dans les services en paroisse, dans les associations, mais aussi la joie... Moi, je l'avoue simplement, souvent on me dit « Alors, est-ce que t'as des dîners sympas avec d'autres célibataires ?» En fait, ma joie, c'est de prendre mon baluchon et d'aller dans une famille amie 2 ou 3 jours, voilà, et d'accompagner les enfants au Poney Club, de discuter avec eux, et puis en parallèle télétravailler tout simplement, donc continuer ma vie. Et c'est vrai que j'accompagne en présentiel, mais aussi en distanciel, et donc c'est des moments où je peux vraiment faire mon travail pour des personnes qui sont loin et qui désirent être accompagnées ici, par Zoom, tout en étant dans une famille, voilà, et en exerçant ma maternité relationnelle et spirituelle autrement.
Donc essayons peut-être dans nos cercles amicaux et de famille de cesser de vouloir absolument caser les gens les célibataires. On a toujours envie qu'ils trouvent un amoureux, en tout cas chaussures à leurs pieds. On n'est pas là dans cette œuvre là. Vous proposez un livre de coach et c'est de l'auto-coaching. Alors ça m'a interpellé parce que avant peut-être de nous parler de la méthode, hein, parce qu'il y a une certaine méthode dans le livre. Comment vous êtes-vous venu à devenir coach et comment vous avez passé le pas d'éditer un livre?
Moi, j'ai toujours eu le désir d'accompagner des petites équipes ou des personnes. Et c'est vrai qu'en terminale, j'ai fait un choix assez classique, d'entrer dans un parcours classique pour les raisons qui sont les miennes. Mais c'est vrai que ce désir d'accompagnement, vers 25-30 ans, il est revenu. Et donc, j'ai décidé de vivre une reconversion professionnelle. Donc, en parallèle de mon travail en conseil en stratégie dans la santé, j'ai repris des études à la fac. Et je dis vraiment à nos éditeurs que si on a un désir profond, ça vaut le coup d'y aller. Et j'ai trouvé l'énergie et les ressources pour étudier pendant 7 ans à la fac de psychologie, donc je suis psychologue clinicienne, et en parallèle j'ai suivi une formation de coaching systémique nord-américain pour les familles, les couples et aussi les entreprises, les binômes de dirigeants et les petites équipes. Et puis petit à petit je me suis lancée et vraiment j'ai suivi un conseil qu'on m'a donné. J'ai rencontré 20 coachs et je leur ai demandé 10 conseils pour savoir comment on peut se déployer à sa juste place dans ce domaine-là. Et je les ai appliqués tout simplement. Donc vraiment, c'est l'occasion de les remercier. Et puis après, ce livre, en fait, c'est un client qui n'est pas chrétien. Et en fait, avec qui on a fait un vrai travail de libération intérieure par rapport à des choses du monde et qui a été assez bouleversé. Ses amis ne le reconnaissaient plus et il m'a dit il faut que vous écriviez un livre. Et vraiment, je remercie tous nos auditeurs qui ne sont pas chrétiens et qui en même temps se sentent appelés à vivre et à aimer, à être aimés, parce que vraiment c'est le mouvement principal qu'on peut tous s'offrir et c'est vraiment grâce à lui que j'ai écrit. Et chaque mois, il me disait, vous en êtes à la combienième page?
Ah oui.
Voilà. Et il y a un autre auteur, bon, j'ai fait la même chose pour les auteurs, c'est-à-dire que je suis allée rencontrer 20 auteurs et je leur ai demandé les 10 premiers conseils qu'ils me donneraient. Et il y en a un qui m'a dit, écoute, c'est assez simple, tu ouvres un fichier Word et tu mets tes idées. Mmh. Et après, tu leur donnes, comme ton sujet de recherche, avec un sommaire automatique. Tu l'as fait pendant 7 ans en psycho, tu vas le faire. Et puis après, il y a eu, évidemment, vous savez, il y a des barrières. On vous dit, il y a plein de livres qui partent au pilon, il y a... Et en même temps, il y a quelque chose qui est dans votre cœur, et enfin, je vais dire je même, il y a quelque chose qui était dans mon cœur, qui était déposé et que j'ai continué à écouter. Puis à un moment, j'ai arrêté, puis il y a eu un concours de circonstances. Et voilà, et on a tous plein de projets qui sont mis au pilon, avortés, déplacés, déstructurés. Et puis il y a certains de nos projets qui réussissent. Alors on peut regarder ce projet en disant elle a de la chance, oui, mais je pense que. On peut tous avoir des chances sur nos vies et ça peut être juste sourire à quelqu'un, j'en parlais hier aux célibataires, sourire ou parler à quelqu'un dans la queue à la boucherie, à la poissonnerie, en fait, c'est notre œuvre en fait, c'est la première. Et puis après, il y a d'autres œuvres qui sont plus visibles et je vous remercie David de me poser ces questions qui me font prendre conscience du cadeau que j'ai dans les mains et qu'on m'a fait en fait, parce que c'est grâce à mes confrères et consoeurs coach, psychologues, auteurs chrétiens et non chrétiens que je suis là avec vous ce matin.
Oui, et puis merci de nous laisser un peu de vous, parce que c'est vrai que quand on écrit un livre, eh bien on abandonne un peu de soi et on le met sur la table de la fête du livre, et puis comme ça chacun peut venir consommer un peu de nous. Qu'est-ce que vous direz aux personnes qui doutent parce que c'est quand même un effort personnel de se dire tiens, je suis dans cette situation, j'ai besoin d'aller voir un coach, alors on peut avoir une recommandation, mais est-ce qu'il faut douter? Est-ce que c'est infranchissable? Est-ce que c'est accessible? Quel est votre conseil là-dessus? Il faut y aller.
Alors déjà, j'entends bien votre question de j'ai besoin, et parfois il y a un besoin, enfin voilà. Après, c'est une question de désir et de capacité à ouvrir certains sujets, certaines questions. Donc moi, je dirais aux personnes de prendre le temps et d'écouter ce qui est dans leur cœur, et si elles en ont envie et si elles en ont le désir ou si elles en ont besoin, parce qu'effectivement il y a une grande fragilité qui se réveille à elles et qu'elles se mettent en difficulté, alors oui, ça vaut le coup de parler de besoin.
Et puis de célibataires de tous les âges aussi,
oui,
parce qu'en fait les questions sont également différentes.
Et s'il faut pousser une porte, je l'écris dans le livre, c'est prendre le temps, parce qu'il faut que ce soit aussi un plaisir de venir en séance pour quelque part affronter ce qu'il y a de lumineux, ce que j'écris dans le livre, et puis aussi que ce soit un courage d'affronter ces ombres pour clarifier sa situation. Mais c'est pas uniquement une question de célibataire, vous voyez. Moi, je pense pas que les célibataires ont un problème. C'est pas on est célibataire, c'est un état de vie. Et certaines personnes en couple, mariées, fiancées, célibataires, ont des problèmes. Mais voilà, c'est pas une proposition unique. Et il y a aussi d'autres chemins. Il y a des personnes qui font un chemin. Via des parcours entrepreneuriaux, via des projets où ils développent leur side projet, des talents, et par là la guérison passe. Moi j'utiliserai pas le mot guérison, d'apaisement en fait, tout simplement, parce que je l'ai écrit dans mon livre, une blessure ça reste une cicatrice, après on peut enlever un petit peu le pus, apaiser, etc., comme vous avez dit tout à l'heure, consoler s'il y a de la tristesse, mais voilà, la cicatrice reste là et ça fait partie de notre histoire, ce chemin. Mais voilà, essayons vraiment d'être à l'écoute des uns et des autres et d'être très délicats du mieux qu'on puisse. En tout cas, moi, c'est mon intention quand j'accueille les uns et les autres, c'est vraiment déjà d'écouter. Tout à l'heure, on a parlé d'accueillir. J'ai beaucoup aimé là, Monsieur Peset qui disait notre principale mission, c'est d'accueillir dès le début à la gare. Nous, on accueille dans des lieux qu'on aime bien. Et on a juste envie d'être là et ensuite d'essayer de permettre à chacun d'entrer dans le chemin qui est le sien. En fait.
Qu'est-ce qui vous rend, c'est ma dernière question, qu'est-ce qui vous rend heureuse dans votre métier?
Mon métier, ma mission, je pense qu'elle est très... Ce métier, il est très... Vous voyez, il est très attaché, il est très empreint de ma mission de vie, c'est un travail que j'ai fait, de me dire voilà, quelle est ma mission de vie en tant que célibataire, comment je peux être féconde avec une transmission. Et voilà, et dans ce métier, je peux mettre plein de choses que j'aime, quoi. La présence, le silence, l'écoute, des matières artistiques, parce que j'ai aussi fait des modules avec, à partir de peinture, d'écriture, de céramique, etc. Et puis la compétence et l'expertise. Et ça, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup lu, je me suis formée. Je suis psychologue clinicienne et je suis contente de mettre mon expertise et ma compétence au service de ceux qui veulent se déployer pour le monde et pour le bien commun.
Est-ce que je peux ajouter que témoigner vous rend heureuse? Parce qu'en tout cas, c'est, vous le faites avec voilà, un partage très, très généreux.
Je suis pleine de gratitude.
Merci. Chrysoline Brabant, B-R-A-B-A-N-T. Voilà, la force des célibataires. Sans question pour rayonner. Pardon, sans question pour se connaître. Et rayonner, c'est important l'ordre des mots. Sans question pour se connaître et rayonner, c'est aux éditions de l'Emmanuel. Alors évidemment c'est disponible dans les librairies, mais c'est disponible aussi sur la fête du livre de Lourdes. Chrysoline,
si je peux me permettre, Sainte Thérèse d'Avila a dit le début de la vie spirituelle commence par la connaissance de soi, et donc ce mot de la force des célibataires et se connaître était fondamental pour moi et profondément spirituel.
Merci beaucoup Chrysoline Brabant de nous avoir présenté ce livre. La fête du livre, eh bien évidemment, elle continue avec nos auteurs. Pour le moment, moi je propose que l'on fasse une pause, Philippe.
Oui,
on va faire
bah
une
oui.
petite pause en musique.